France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Alors que François Bayrou a annoncé qu'il solliciterait le 8 septembre prochain un vote de confiance auprès de l'Assemblée nationale, prenant le risque très probable de faire chuter son gouvernement, c'est bel et bien une série de blocages qui semble définir cette rentrée politique et sociale. À l'approche du mouvement Bloquons Tout, la clarification qu'appelle de ses voeux le Premier ministre semble bien périlleuse devant un Parlement où aucune majorité stable ne se dégage depuis les dernières élections législatives, à l'image d'une opinion publique elle-même divisée en trois bords idéologiques radicalement distincts. Quelle est au juste la nature de ces blocages qui agitent la France ? Faut-il y lire l'effet d'une paralysie politique résultant d'un manque d'écoute ou de concertation ? Le symptôme d'une érosion de la culture du compromis ? En somme, l'œuvre d'une classe politique qui aurait délaissé l'esprit originaire de la Ve République ? Ou bien cette situation est-elle le signe d'une crise plus profonde, institutionnelle, voire constitutionnelle, mettant en lumière les contradictions du régime semi-présidentiel dans lequel nous vivons, voire d'une démocratie représentative à bout de souffle ? La rentrée des blocages, crise politique ou institutionnelle, j'aurai le plaisir d'en discuter sans préjugés, aux côtés du politiste Bastien François, de la constitutionnaliste Eugénie Mériot et de l'essayiste Raphaël Dohain.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Eugénie Mériot, vous êtes constitutionnaliste, bonjour. Maîtresse de conférences en droit public à Paris 1, auteur de l'ouvrage Constitution dans la collection Le mot est faible aux éditions Anna Moza. Bonjour Raphaël Dohain.
Bonjour.
Vous êtes ancien haut fonctionnaire, agrégé d'athlète classique, essayiste et auteur de l'ouvrage Faire de la France une démocratie, paru aux éditions Passé Composé. Et bonjour Bastien François.
Bonjour.
Politiste, professeur de sciences politiques à Paris 1 et auteur des mots-clés du droit constitutionnel aux éditions Dalloz. Alors je vous propose de partir du commencement, en un sens, et de cette annonce qui a inauguré la rentrée politique faite par François Bayrou lors de sa conférence de presse le 25 août dernier.
Chacun désormais va être placé devant ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes pour clarifier les choses. Le Parlement aura le 8 septembre la décision entre ses mains. Et chacun s'engage devant les Français. Et c'est là, au fond, que la démocratie prend tout son sens. Je vous remercie.
Je vous remercie. Alors, je vais commencer par vous, Eugénie Mériot, d'abord parce que vous êtes constitutionnaliste et qu'on a l'impression ces derniers temps que la vie politique française est devenue un cours grandeur nature de droit constitutionnel, nous permettant de découvrir ou de réviser les modalités précises de la dissolution, de la censure, et aujourd'hui, de l'article 49-1 de la Constitution, soit la possibilité facultative pour le Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement en sollicitant la confiance du Parlement. Alors, dans votre ouvrage que je citais tout à l'heure, vous remarquez qu'il y a une lacune dans le fonctionnement de la Ve République pour qu'elle soit bel et bien un régime parlementaire, au sens plein, à savoir qu'il n'y a pas en France d'investiture obligatoire du Premier ministre, soit une obligation pour le Premier ministre, avant d'arriver à Matignon, de recueillir la confiance des députés. Estimez-vous que le geste, la décision de François Bayrou a en un sens compensé cette lacune d'ordre constitutionnel ?
Alors tout d'abord, il faut revenir sur l'article 49. Il ne s'agit pas de l'article 49-1, mais bien de l'article 49 alinéa 1. Donc l'article 49 porte sur les modalités d'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est le principe cardinal du régime parlementaire, c'est-à-dire cette responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. Or, en effet, dans notre régime de la Ve République, cette responsabilité du Premier ministre s'exerce davantage vis-à-vis du président de la République, c'est-à-dire que le Premier ministre dépend, procède plutôt du président de la République que de l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de la Ve République, cet article 49 a été très peu utilisé. Alors l'article 49 alinéa 1, donc l'article 49 alinéa 1, c'est-à-dire le vote de confiance, a été utilisé 41 fois sous la Ve République, mais jamais il n'a permis de désavouer, c'est-à-dire de faire chuter un gouvernement. Généralement, les premiers ministres ont utilisé ce vote de confiance après avoir été nommés par le président de la République pour s'assurer qu'ils avaient bien une majorité parlementaire pour gouverner. En revanche, lorsque ce n'était pas le cas, ils ne l'ont pas fait, et c'est la raison pour laquelle depuis 2022, c'est-à-dire depuis Elisabeth Borne, les premiers ministres n'ont pas demandé l'investiture après avoir été nommés par le président de la République, parce qu'ils se savaient perdants. Et d'ailleurs, C'est le cas aussi de M. Bayrou, qui n'a pas demandé l'investiture après avoir été nommé par Emmanuel Macron. Mais pour revenir à cet article 49, la motion de censure, elle est déposée par les parlementaires contre le Premier ministre. Elle peut l'être aussi de manière spontanée ou elle peut l'être en réponse à un 49 alinéa 3. Et ce qui est intéressant dans la séquence que nous vivons, c'est que depuis la dissolution du 9 juin dernier, nous avons donc une assemblée qui est extrêmement volatile et fragmentée en trois blocs, même si on pourrait revenir sur cette tripartition. En tout cas, nous avons deux inédits en fait dans cette séquence. La première, c'est que nous avons eu pour la première fois une motion de censure qui s'est exercée et qui a été victorieuse. C'est celle contre Barnier le 4 décembre 2024, en réponse à l'article 49 alinéa 3. Et là, nous allons avoir la première chute de gouvernement sur l'article 49 alinéa 1, c'est-à-dire le vote de confiance. Sachant que nous en avons un dernier, qui est la motion de censure spontanée, qui est celle de l'article 49 alinéa 2. Et là, ça n'était utilisé qu'une seule fois, victorieusement. C'était en octobre 62, contre le gouvernement de Pompidou et contre De Gaulle, si vous voulez. Et peut-être que demain, nous aurons, ce nouveau Parlement, une utilisation victorieuse de l'article 49 alinéa 2. Donc nous allons avoir dans cette séquence l'ensemble des différents alinéas de l'article 49 qui vont pouvoir être utilisés, alors que justement le propre de notre 5e République a été jusqu'alors, grâce au fait majoritaire, de neutraliser complètement cette motion de censure, c'est-à-dire ces trois éléments de l'article 49 qui faisaient basculer notre régime dans un régime présidentialiste, c'est-à-dire dans lequel la motion de censure ne s'exerce pas, le Premier ministre n'est pas de facto responsable devant l'Assemblée.
Alors pardon pour cette confusion entre alinéa et tiret, mais je me demande en écoutant votre analyse sur le caractère doublement ou triplement inédit de ce qui se passe, s'il n'y a pas aussi une ambiguïté, et je vous pose la question Bastien François, dans la démarche de François Bayrou, à savoir que d'abord il emploie un vocabulaire extrêmement alarmiste. Pour le citer, il a dit récemment, c'est la vie de la nation qui est en jeu derrière la survie de son gouvernement, mais surtout que cette confiance qu'il demande au Parlement et qu'il pourrait assez probablement ne pas obtenir, ce qui serait en effet inédit, il ne la demande pas tellement sur un programme ou sur un projet, mais sur l'approbation d'un diagnostic ou d'un constat. N'y a-t-il pas quelque chose qui est fondamentalement ambigu, voire étonnant, dans cette démarche ?
Effectivement, on a tous été surpris. On ne va pas dire qu'on l'avait imaginé, on a tous été surpris, et d'ailleurs les parlementaires aussi, et la classe politique de façon générale a été surprise. Faire le coup du moi ou le chaos, quand c'est déjà le chaos, qu'on représente rien au Parlement, qu'on a un gouvernement sans programme, qui se contente de suivre de loin le vote de propositions de loi, et faire moi ou le chaos sur un constat partagé par tout le monde, alors que le désaccord porte sur des solutions, c'est extrêmement surprenant, c'est même intellectuellement surprenant. Donc cette démarche de M. Bayrou, pour moi, je la vois plutôt comme une démarche un peu égotique, qui utilise le premier alinéa de l'article 49, non pas du tout pour demander la confiance, mais en réalité pour susciter un départ, un peu donquichotesque, qui lui permettra de dire que finalement, il a tout essayé et que les parlementaires l'ont renvoyé alors qu'il était le seul à tenir un discours de vérité. Bon. C'est du Bayrou, ça, en réalité, c'est ça qu'il fait, parce qu'en fait, il ne gouverne pas, M. Bayrou. Il a été ministre sous Fillon, je crois, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il n'a pas laissé une trace absolument éblouissante. Je m'en souviens, j'étais déjà enseignant à l'université. Et depuis, il n'a pas gouverné. Et en réalité, depuis qu'il est Premier ministre, pour des raisons, d'ailleurs indépendant de sa volonté, il ne peut pas vraiment gouverner. Il a un gouvernement qui part dans tous les sens, des ministres qui défendent des points de vue différents. Enfin, il y a un vrai problème d'autorité sur ce gouvernement. Bon, il n'a pas les moyens de gouverner, et donc là, il en tire les conséquences dans un geste un petit peu, alors je mets des guillemets, hein, parce qu'il aimerait bien qu'on dise ça, un petit peu à la Mendes France. Voilà, le parler vrai, alors qu'en réalité, c'est plutôt son impuissance qui se mesure là.
Oui, vous faites référence au fait que Mendes France, qui restait très peu de temps au pouvoir, l'a quitté justement en octobre 54, si je ne me trompe pas, à la suite d'une situation où le Parlement ne lui avait pas accordé sa confiance. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de frappant, de rare, en tout cas de prime abord, dans la démarche et la décision de François Bayrou, c'est que nous voyons là un homme aller lui-même vers sa chute et décider de s'éloigner du pouvoir parce qu'il est estime que les conditions ne sont pas réunies pour gouverner ou pour ne pas gouverner, mais en tout cas pour y rester. Est-ce que vous pensez pour autant, Raphaël Dohan, que cela signifie qu'il n'y a pas d'arrière-pensée stratégique chez François Bayrou, ou que cette grandeur ou ce détachement apparent cache peut-être aussi des calculs politiques classiques?
Oui, c'est possible. François Bayrou est un agrégé de lettres classiques. Il connaît son histoire ancienne. Et donc, je pense qu'il aimerait bien apparaître comme une sorte de Caton se suicidant sur son épée face à l'impossibilité de prévaloir. Mais derrière cette noble décision, il y a sans doute effectivement une pensée stratégique, soit qu'il pense vraiment avoir encore un avenir politique et qu'il espère pouvoir tirer un jour profit de cette sorte de noblesse d'âme à s'être précipité sur son épée, soit parce que, même s'il n'envisage pas de carrière politique ultérieure, il veut sculpter sa figure dans l'histoire, qu'il imagine qu'au moins, comme Pierre Mendès-France que vous avez mentionné, il aura été celui qui a dit la vérité. Et je pense que c'est pour ça que, depuis son annonce, il insiste beaucoup, et avec des mots d'ailleurs assez forts et tranchants, sur la situation budgétaire, sur le poids des retraites, par exemple, dans le budget, des choses que la classe politique a en général un peu plus de mal à dire.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Alors que François Bayrou a donc pris cette décision de quitter éventuellement Matignon, ou en tout cas de soumettre son gouvernement à un vote de confiance, on peut aussi remarquer qu'il a un vocabulaire extrêmement alarmiste sur le contrat social qui ne marche plus, accusant aussi les boomers comme s'il y avait une parole qui se délivrait, ou comme s'il y avait un blocage politique qui se révélait ici dans toute sa complexité. Je vous propose de revenir un petit peu en arrière, de revenir à l'origine, enfin ce n'est peut-être pas l'origine unique, mais en tout cas l'origine à court terme de ce blocage, à savoir la fameuse dissolution, tout aussi étonnante que la décision récente de François Bayrou, qui avait suivi les élections européennes en 2024. Bastien François, est-ce que vous estimez que quand Emmanuel Macron, on s'en souvient tous, le soir du résultat de ces élections européennes, il constate que le score de sa majorité est très loin d'être majoritaire, est-ce que vous estimez que le réflexe qui a été le sien était un réflexe qui a, si vous voulez, redonné un souffle démocratique dans la vie politique française, ou que c'était une démarche qui était impulsive et qui, avant même de savoir le résultat des élections législatives, mais que c'était un réflexe qui était en lui-même problématique?
Je ne pense pas qu'un président qui dissout ait comme premier objectif, quel qu'il soit, d'améliorer le fonctionnement du système démocratique en France. Il joue un coup politique en essayant de diviser la gauche. Très vite, il se rend compte que ça ne marche pas. Et avec le résultat qu'on connaît, mais il ne faut pas oublier qu'avant la dissolution, il n'avait déjà plus la majorité absolue. C'est-à-dire que déjà avant la dissolution, le fonctionnement du Parlement était pour le gouvernement quelque chose de très difficile, et qu'il était déjà dans une situation très difficile. Il ne faut pas faire tout naître de la dissolution. En réalité, même moi, j'irais beaucoup plus en amont. Je pense que ça fait 20 ans qu'on est en train de préparer la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a, avec le quinquennat présidentiel, on a produit un président qui, comme le dit très justement Nicolas Rousselier, est empêtré par sa force. On a, ce faisant, cassé le rôle de fusible du Premier ministre. Et puis, petit à petit, on est rentré dans ce système de tripartition de la vie politique, même si c'est un peu simpliste de parler de tripartition, mais en tout cas qui est incompatible avec la logique binaire du scrutin majoritaire qui est employé aux législatives et à la présidentielle. Et là, finalement, on a eu le résultat de la convergence de tout ça, un président hyper puissant, mais qui est tellement puissant qu'il n'a plus la main, enfin qu'il écrase tout, il n'y a plus d'espace, un espace politique qui se fragmente de plus en plus, et donc l'absence de majorité, et un président de la République qui reste dans la logique, parce que c'est ça, en fait, le vrai problème, à mon sens, de la sortie de la dissolution, un président de la République qui reste dans la logique de la Ve République, comme si ne s'était rien passé. Bon, c'est-à-dire qui choisit un Premier ministre sans tenir compte des rapports de force politique, sans rentrer, comme il existe dans tous les autres pays européens, dans une logique qu'on aurait pris de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, pour construire une coalition autour de quelqu'un qui n'aurait pas été choisi par le président de la République, mais qui aurait été le résultat de l'élection. Bon. Là, on a eu une situation très très particulière. On ne savait pas très bien qui avait gagné les législatives, ce n'était pas très clair en réalité, mais on savait au moins qui l'avait perdu. Celui qui avait perdu l'législatif, c'est celui qui avait décidé la dissolution. Et qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron? Il a mis comme principe, comme règle, qu'on continuait la même politique qu'avant. Bon, ça, c'était pas possible. Donc, il fallait tenir compte de la situation politique. Je ne vais pas dire ce qu'il fallait qu'il fasse, hein, mais enfin, il y avait deux groupes, en tout cas, il y avait le groupe RN et puis il y avait le groupe formé par la coalition NFP, qui aurait été en capacité, éventuellement, mais on ne l'a pas testé, de construire une coalition autour d'un programme de gouvernement, parce que c'est ça ce qui s'est passé. On a constitué des gouvernements depuis cette dissolution, gouvernement Barnier et gouvernement Bayrou, sans définir de programme. C'est-à-dire que je mets au défi n'importe qui de me dire quel était le programme du gouvernement Bayrou le jour où sa composition a été annoncée. Et c'est quand même fou, ça, d'un point de vue démocratique, d'avoir un gouvernement qui n'a pas de programme. Alors, il y a une difficulté, c'est que son programme, s'il en avait un, il aurait du mal à l'appliquer, bien sûr. Mais le premier problème politique majeur, et on oublie de le dire souvent, c'est qu'il n'y a pas de programme. Et donc, vous avez des ministres qui vont défendre chacun leur précaré, avec aussi des effets politiques très importants, parce que quand un gouvernement n'a pas de programme, qui est-ce qui a un programme ? Ben, les lobbies. Donc, les lobbies investissent, on l'a vu là, ces derniers mois, l'Assemblée nationale systématiquement, parce qu'eux, ils ont des programmes et des choses à faire passer, qui font passer par des propositions de loi. Bon, et le gouvernement est incapable de résister parce qu'il n'a pas de ligne, en réalité. Bon, sauf la ligne très générale de « on n'augmente pas les impôts », ce qui est quand même un programme très limité.
Oui, mais si on vous suit, et je vous suis sur ce point, dans le fait que, évidemment, le blocage ne remonte pas seulement à quelques mois, mais que c'est une affaire beaucoup plus ancienne, vous citiez le quinquennat, c'est-à-dire aussi l'alignement de la vie législative, de la vie parlementaire, sur le calendrier, sur la temporalité présidentielle. Est-ce que, alors je ne dis pas ça pour me faire l'avocat de la dissolution, mais j'ai l'impression qu'il y a deux lectures sur ce geste-là. Une première lecture consistant à penser que c'était un geste complètement impulsif, qui n'avait pas été réfléchi, qui n'avait pas été décidé, qui était une réaction hâtive à une défaite électorale. Il y aurait une deuxième lecture, je pense, c'est quand même de remarquer que Emmanuel Macron, bien avant la dissolution, en 2019 déjà, au moment du grand débat qui avait suivi les Gilets jaunes, enfin qui accompagnait au moment des Gilets jaunes, prônait le fait quand même de réintroduire des mid-terms à la française dans la vie démocratique, c'est-à-dire des élections au milieu du quinquennat.
Le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de mid-term à la française, en tout cas de césure, de respiration où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec.
Bon, il y a la phrase sur le désaveu de majorité, nous l'avons entendu. Mais il y a aussi l'idée selon laquelle ce décalage de temporalité permet de redonner de l'autonomie au Parlement. Raphaël Dohan, est-ce que vous ne pensez pas que les élections législatives qui ont suivi la dissolution étaient en un sens les premières élections législatives depuis très longtemps, puisqu'elles ne suivaient pas le résultat d'une élection présidentielle qu'il s'agissait uniquement d'avaliser ou de venir enregistrer au Parlement?
Si, c'est vrai, d'habitude, les élections législatives étaient devenues une sorte de manière d'entériner une élection présidentielle, et là, ce n'était pas le cas, à cause du calendrier. Je trouve que ça révèle à quel point, comme le disait le général de Gaulle, il y a la différence entre le texte de la Constitution et sa pratique. En fait, la Ve République, finalement, peut prendre des formes assez variées en fonction de la manière dont on l'utilise, et aussi des circonstances extérieures. Là, en l'occurrence, il y a la fameuse tripartition dont on a parlé tout à l'heure, qui change la donne, puisque, de fait, il est difficile d'avoir une majorité à l'Assemblée, et donc, tout devient plus difficile, y compris pour le gouvernement et le président, et puis les législatives effectivement, qui, selon qu'on les décale de quelques années, en fait, changent profondément la vie politique française. Je pense qu'aujourd'hui, et même, rajoutons aussi le fait, comme d'ailleurs Emmanuel Macron l'a évoqué dans cet extrait, que dans l'esprit initial du général de Gaulle, qui était apparemment celui d'Emmanuel Macron à cette époque, un président désavoué lors d'une élection aussi importante et de manière aussi évidente devait partir, tout cela a fait que la nature du régime a changé par sa pratique, par l'évolution de la situation économique aussi, de la situation politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins une question finalement de texte des institutions qui pose problème que de pratiques et de circonstances, et notamment budgétaires, mais on en reparlera peut-être.
Eugénie Mériot, dans votre ouvrage, vous proposez une réflexion très stimulante sur le fait que souvent la Constitution se fonde, ou en tout cas découle, de gestes qui n'étaient pas en eux-mêmes constitutionnels. Vous citiez l'attitude du général de Gaulle en 62, et vous remarquiez que dans le cas de la dissolution, Emmanuel Macron n'avait pas tout à fait respecté les règles pures, la lettre pure de la Constitution, puisqu'il n'avait pas vraiment consulté les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais il les avait informés avant de prendre cette décision. Je voulais vous poser cette question de l'Assemblée, telle que nous la voyons. C'est une Assemblée qui est à la fois extrêmement représentative des Français. En un sens, il y a à peine besoin d'introduire de la proportionnelle, à part peut-être sur la représentativité du Rassemblement national au premier tour, mais on voit bien quand même des blocs idéologiques, cette tripartition que vous évoquiez tout à l'heure, et en même temps, elle ne permet pas d'avancer. D'où une question naïve, mais volontairement naïve, est-ce l'Assemblée, la vie politique en un sens qui est bloquée, ou est-ce la société ?
Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le geste de Bayrou et dans quelle mesure il s'inscrit dans la logique de la dissolution. En fait, ce sont deux gestes qui ont un même objectif, qui est celui de renforcer ou d'espérer renforcer une légitimité très affaiblie par un vote d'adhésion. Et donc, dans les deux cas, alors, je préjuge de ce qui va se passer le 8 septembre, mais dans les deux cas, ce sont des paris qui sont perdus. Et ce qui, moi, me frappe, c'est la manière dont ces paris perdu d'avance, semble avoir été fait avec une immense naïveté sur l'état justement de la popularité de ces personnes, que ce soit Emmanuel Macron lorsqu'il dissout ou que ce soit M. Bayrou lorsqu'il demande un vote de confiance. Sachant que cette décision de François Bayrou est évidemment une décision également du président de la République, puisque premièrement, le Premier ministre dépend du président de la République, il est responsable devant lui de facto, et deuxièmement, c'est une décision qui se prend en Conseil des ministres, la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée est signée des mains du président de la République et du Premier ministre. Donc c'est également un geste d'Emmanuel Macron lorsque Bayrou demande donc le vote de confiance. Et donc vous avez d'une part ce caractère complètement, dans une certaine mesure, irresponsable, c'est-à-dire créer le chaos, mais qui peut s'expliquer comme étant de, si on cherche à rationaliser cela, par deux choses, un calcul politicien et puis un extrêmement mauvais calcul politicien. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'il y ait des intérêts personnels derrière, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron, c'était a priori d'avoir soit une majorité renforcée, soit d'être en cohabitation qui lui permettrait de renforcer sa légitimité si d'aventure il était en cohabitation avec le Rassemblement national. Donc ça, c'est la première chose. Pour François Bayrou, c'est la possibilité de sortir, en effet, comme l'a dit Bastien François, avec panache, pour pouvoir se représenter en 2027 et pour Emmanuel Macron, d'avoir une sortie, donc une démission de Premier ministre honorable. Mais en fait, la logique qui aspire l'ensemble de ces calculs, de ces mauvais calculs politiciens qui nous plongent dans le chaos, c'est l'élection du président au suffrage universel direct. Je pense que les collègues seront d'accord avec moi sur ce point-là, c'est-à-dire que l'ensemble de la Ve République, de la vie politique, est complètement phagocyté par des calculs politiciens qui n'ont qu'un seul horizon, c'est l'élection présidentielle. Et que ce soit la dissolution, que ce soit le vote de confiance, ces mauvais calculs politiciens sont à l'origine de ces décisions irrationnelles. Donc ça me permet de faire le lien avec la question que vous me posez sur la question de la représentativité de l'Assemblée nationale. En fait, si on s'intéresse à notre constitution de la Ve République, son objectif n'a jamais été d'être véritablement parlementaire. Son objectif a été toujours de créer cette efficacité de l'action gouvernementale en créant, si besoin est, des majorités un petit peu artificielles et en amplifiant cela par un fait majoritaire. Et même en l'absence de majorité dans la société qui se dessinerait naturellement, d'avoir une constitution qui permette de gouverner sans majorité. C'est vraiment ça l'idée de la Ve République. D'aucuns de mes collègues ont parlé d'un anti-parlementarisme constitutionnel même, ce qu'on appelle plus joliment le parlementarisme rationalisé. Donc l'idée, c'est que finalement, en l'absence de lignes idéologiques claires et de bipartisme dans la société, nous pouvons avoir un système fonctionnel. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que lorsque nous n'avons pas de fait majoritaire, eh bien les institutions de la Ve République non seulement sont antiparlementaires et antidémocratiques, mais en plus, elles ne répondent pas à cet objectif, ce justificatif premier qui était celui de l'efficacité gouvernementale, donc la possibilité d'avoir un budget, de régler des crises économiques, des crises internationales, etc., sans majorité. Donc là, on atteint véritablement les limites du système de la Ve République.
J'ai l'impression que Raphaël Dohan, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais prolonger en fait cette réflexion en disant que le général de Gaulle était assez agacé par les premiers ministres qui avaient le réflexe de demander la confiance de l'Assemblée lorsqu'il venait d'être nommé, parce que ça lui rappelait trop la 4e République et qui considérait justement que dans le nouveau régime, il devait dépendre du président et pas de l'Assemblée. Et l'autre chose, c'est que le général de Gaulle lui-même utilisait souvent l'expression de question de confiance pour parler non pas de l'article 49 alinéa 1, mais du référendum ou de l'élection du président au suffrage universel direct, justement. Pour lui, c'était ça, en fait, la question de confiance, et elle se posait directement aux Français et pas à l'Assemblée. Donc, cette logique-là, peut-être que c'est un petit peu ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire avec la dissolution. Je pense aussi qu'il était contraint par la perspective du budget qui allait arriver. Je pense que le mauvais calcul qu'il a fait, c'est en fait de croire qu'il n'arriverait pas à faire passer le budget à l'époque. Et il a précipité, en quelque sorte, le blocage.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Puisque vous avez abordé de vous-même la dimension constitutionnelle du problème, comme si l'analyse politique de cette crise menait directement à une interrogation de type constitutionnel, je voulais vous poser une question, Bastien François, mais aussi vous soumettre une contradiction qui me frappe beaucoup. Nous avons beaucoup dit ces derniers temps que les politiques ne pensaient qu'à leurs propres intérêts, leurs intérêts partisans, plutôt qu'à l'intérêt général, qu'ils refusaient de mettre de l'eau dans leur vin, de faire des compromis, etc. Et le concept d'intérêt général, en effet, même s'il n'est pas écrit en toutes lettres dans la Constitution de la Ve République, il est quand même très important dans l'esprit de nos institutions. Le préambule de la Constitution renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le mentionne dans son article 5. La loi est l'expression de la volonté générale. Emmanuel Macron, je crois que c'était un peu le sens implicite de sa formule, la coexistence exigeante pour qualifier ses gouvernements. Et François Bayrou l'a dit très récemment, cette semaine encore, nous défendons l'intérêt général. Cette équipe porte un message, l'intérêt général oblige à dépasser les préférences partisanes, avait-il dit dans sa déclaration de politique générale. Or, quand on propose la généalogie de cette notion-là, la notion d'intérêt général et son corollaire, la volonté générale, elle vient essentiellement de Rousseau. Et Rousseau, dans le Contrat social, qui était un contempteur de la démocratie représentative et qui était, pour schématiser un tout petit peu, partisan, lui, d'une démocratie à peu près directe. Il y a un chapitre très important, le chapitre 3 du livre 2 du Contrat social, où il propose cette distinction entre volonté de tous, c'est-à-dire chacun exprime sa volonté politique en fonction de ses appartenances, et la volonté générale, c'est-à-dire chaque citoyen n'est pas court-circuité entre lui-même et l'État. Et il le dit, quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État et que chaque citoyen n'opine que d'après lui. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction qui s'en serait inscrite au cœur même de notre régime constitutionnel, à savoir une démocratie représentative qui parle sans le savoir la langue de la démocratie directe et donc qui se condamnerait à se fixer un objectif qu'elle ne peut pas atteindre par principe?
Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Je serais un peu tenté de vous dire les questions que vous posez ne concernent pas particulièrement la Ve République. Elles concernent tous les régimes démocratiques et toutes les démocraties parlementaires en particulier. Je crois que je voudrais revenir sur la question de l'élection présidentielle, parce qu'il ne faut pas oublier que dans près de la moitié des pays de l'Union européenne, il y a un président de la République élu au suffrage universel direct, et que parfois il a des pouvoirs assez importants, même très importants. Quelle est la différence avec le nôtre? C'est que dans ces pays-là, il y a un mode de scrutin proportionnel. Tout à l'heure, vous avez dit que ça ne change pas grand-chose. Si, ça change énormément. Pourquoi? Parce que quand il y a un mode de scrutin proportionnel, ce n'est pas le président de la République qui peut choisir le Premier ministre. C'est les électeurs qui choisissent la personne, le parti, qui sera en position de construire une coalition de gouvernement. Et dans ces systèmes politiques, qu'il y ait ou pas des investitures, il y a la nécessité du président de la République d'engager la confiance du gouvernement qu'il a formé de coalition sur un programme. Ce programme, d'ailleurs, de façon générale, il est très explicite. Il peut faire des dizaines et des dizaines de pages. Donc vous voyez, la question, ce n'est pas tellement l'élection présidentielle en France, c'est le couplage entre l'élection présidentielle et le mode de scrutin majoritaire qui a favorisé un temps, l'émergence et la consolidation et la reproduction du fait majoritaire, alors même que le mode de scrutin majoritaire ne produit pas toujours des majorités, hein, il a été utilisé pendant toute la Troisième République et ça ne produisait pas de majorité. Et là, on touche à quelque chose en fait, qui va très loin, qui touche à des questions de culture politique. Si on essaye de répondre sur l'intérêt général, etc., bon, la culture politique d'un mode de scrutin proportionnel, c'est que vous êtes obligé de construire des compromis. Ça veut dire que quand vous faites des campagnes électorales, vous pouvez cliver, mais il y a des limites à ce clivage. Tout le monde sait, dans un scrutin proportionnel, que chaque électeur sait que son propre parti ne pourra pas appliquer entièrement son programme. Donc les électeurs votent aussi un petit peu différemment. Bon. Donc là, on a un mode de scrutin qui construit des conflits, qui construit de la polarisation. Et là, effectivement, c'est plutôt ça. C'est pas la faute des hommes politiques. C'est pas qu'ils auraient oublié l'intérêt général. Bon, c'est simplement ils sont dans un système politique qui valorise le conflit, qui valorise, qui fait de tout compromis une trahison. En France, un compromis, c'est une trahison. C'est fou. Bon. Dans tous les autres pays de l'Union européenne, qui enfin, quand même, sont au moins aussi civilisés que nous du point de vue de la démocratie, il n'y a pas de trahison de ce point de vue-là. Il y a un rapport de force qui peut éventuellement bouger selon les élections, mais on va construire des compromis. Regardez le gouvernement allemand actuel, c'est quand même fou. En réalité, la distance des deux partis en termes programmatiques à l'origine. Bon, on verra ce que ça donnera. Peut-être ça ne durera pas. Généralement, ça dure quand même. Hein. Sauf le dernier. Bon. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en termes de culture politique. Et la culture politique, elle n'est pas en l'air. Elle est liée aux institutions. Elle est liée aux règles. C'est bien une des leçons de la science politique, ça de montrer que les règles institutionnelles produisent des cultures politiques. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Mais nous, nos règles institutionnelles, on finit par produire une culture politique qui, avec une conception du pouvoir centralisée, caporaliste, totalement concentrée, et donc, d'une certaine façon, très fragile à l'arrivée. Je veux dire, la Ve République, on voit, elle est très fragile puisqu'elle tient sur un homme. Un homme qui va prendre une décision, imaginons, irréfléchie, qui fait une dissolution. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, le pays est à l'arrêt. Et en réalité, il est à l'arrêt actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux majeurs liés à la crise climatique, liés à des reconfigurations économiques internationales, liés à la guerre en Europe. Bon, et là, on est à l'arrêt. Bon. Donc on voit bien la fragilité, l'inefficacité de ce système quand les conditions un peu particulières des 40 ou 50 dernières années ne sont pas réunies. Bon. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir si on... puisqu'on veut aborder, vous voulez aborder la question de la réforme des institutions, il faut non pas réformer les institutions pour les réformer. On ne change pas un système politique par constitution comme on ne réforme pas une société par décret, comme disait Michel Crozier jadis. Bon. Mais en revanche, il faut réfléchir à des dispositifs institutionnels qui transforment la culture politique et donc la pratique des institutions.
Alors, Eugénie Mériot, vous soulignez tout à l'heure, je trouve que tout ça se fait écho dans le lien entre les règles institutionnelles et la culture politique, vous soulignez le fait que aujourd'hui toute notre vie politique est rythmée par cette perspective de l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit récemment qu'à ses yeux, cette succession de blocages politiques faisait que la Ve République arriver à sa limite. La question que j'aimerais vous poser, c'était que si on revenait sur cette idée d'une élection du président au suffrage universel, certains pourraient faire l'objection de se dire mais finalement, la 4e République, qui était opposée à la 5e sur ce point, s'est effondrée un peu pour la même raison, pour le même problème, à savoir que face à une crise donnée, en l'occurrence cette crise était une guerre, eh bien, il n'y avait pas, par les moyens du parlementarisme, de possibilité de trancher la chose, et c'est ainsi que le général de Gaulle s'est imposé. Comment répondrait-on à cette objection-là ?
Si on prend un petit peu de hauteur de vue et même de profondeur de champ historique, on peut se rendre compte que le parlementarisme ne sera pas le remède au problème de la crise de la représentativité, ça c'est certain. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Bastien François. Les règles institutionnelles produisent une culture politique. Et donc là, je suis vraiment tout à fait en accord avec avec ce point-là, mais en désaccord sur la question du mode de scrutin. Justement, ce qui vient de se passer en 2024 prouve justement que si nous avions un mode de scrutin proportionnel, eh bien la question ne serait pas réglée parce que nous avons encore une culture politique présidentialiste et ce serait encore le président de la République qui essaierait de nommer son premier ministre favori, plutôt que d'écouter et de favoriser une forme de contrat, contractualisation ou même d'élection au sein du Parlement pour choisir le premier ministre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si l'objectif est d'avoir une culture parlementaire et une culture de compromis dans laquelle les partis politiques décident non pas des compromissions, mais des compromis sur leur programme dans une logique de type allemande, eh bien, l'ensemble de nos institutions s'érige en porte-à-faux vis-à-vis de cette culture parlementaire. Comme je l'ai déjà dit, nous avons un anti-parlementarisme constitutionnel qui vise précisément à empêcher de faire du Parlement un lieu de délibération dans le sens de la démocratie délibérative d'Habermas. Je pourrais citer tous les articles, ça va être un peu long, mais si on prend le contrôle de l'ordre du jour, article 48 du gouvernement, le régime des sessions parlementaires, session unique, article 28, tous les articles qui limitent la délibération, la politique d'amendement au sein de l'hémicycle, article 40, article 41, 37 alinéa 2, article 34 qui définit le domaine de la loi, etc. Le fait que le gouvernement est celui qui légifère et que le gouvernement a toutes les armes pour pouvoir mettre un terme à la discussion parlementaire, donc surtout ne pas favoriser de discussion entre les partis politiques au sein de l'hémicycle, l'emblème évidemment étant l'article 49 alinéa 3, et bien dans ce cas-là, il faudrait réviser plus de la moitié des articles de notre Constitution si on voulait sortir de cet anti-parlementarisme constitutionnel et peut-être, en changeant le mode de scrutin, aboutir avec probablement de multiples élections, etc., à une culture parlementaire. Donc ça me permet maintenant de venir à votre question. Est-ce que l'objectif de sortie de la Ve République est de revenir à la IVe République? C'est ça la grande question qu'il faut mettre sur la table et qui peut être mise sur la table justement à l'occasion de cette crise qui nous montre les limites de la Ve République et qui est en train de tuer la Ve République. Donc est-ce que nous sommes prêts collectivement à répondre à cette question? Je pense que c'est l'objectif, en tout cas celui qui fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, c'est-à-dire plutôt que de proposer des solutions toutes faites, au moins commencer à réfléchir à une sortie de la Ve République. Et cette sortie, elle peut s'appuyer sur tout un ensemble de nouveaux outils qui ont été développés et qui sont mobilisés par les citoyens actuellement. Je pense à la pétition, je pense au référendum d'initiative citoyenne, non pas partagé, hein, parce que ça c'est la grosse entre guillemets, esbroufe de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est de créer un référendum d'initiative partagé, c'est-à-dire qui, en fait, ne peut pas être mobilisé par les citoyens. Donc, tous ces nouveaux outils peuvent permettre de sortir de la Ve République sans retourner dans la IVe République, qui est morte, en effet, de tous ces défauts congénitaux, et nous le savons.
Raphaël Dohan, vous avez, je crois, un regard plutôt opposé, en tout cas, à en croire votre ouvrage « Faire de la France une démocratie » sur ce lien entre les règles institutionnelles et la culture politique. Vous estimez, si je vous ai bien compris, que, premièrement, le problème ne vient pas du texte, mais vient de la manière dont, enfin du texte constitutionnel, mais vient de la manière dont les politiques se l'approprient ou refusent à vos yeux de se l'approprier. Donc, si je vous suis, vous seriez partisan d'une séparation entre la culture politique et le texte. Vous estimez que cette culture est un peu s'est amenuisée ou s'est dégradée. Mais surtout, vous pensez que la solution à toutes nos crises, ce serait en un sens, pour répondre à ce que disait Eugénie Mériot, de radicaliser cet anti-parlementarisme constitutionnel. Est-ce que vous diriez les choses ainsi?
Je ne dirais pas qu'il s'agit de radicaliser l'anti-parlementarisme, mais en revanche, de tirer plus profit des aspects de démocratie directe que contient la Ve République, qui repose en principe sur à la fois le vote des lois par le Parlement, mais aussi par le peuple directement, qui est une chose qu'on ne fait plus depuis une vingtaine d'années. Mais je voudrais aussi ajouter qu'il y a, dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, il y a quand même des aspects qui sont propres à la France et qui ne tiennent pas au régime, enfin en tout cas au texte. Le premier, c'est l'isolement politique total du Rassemblement national, qui est tout de même une spécificité aujourd'hui actuelle, qui vient de raisons à la fois historiques et idéologiques, mais qui fait qu'on a un tiers de l'Assemblée et un tiers des électeurs quasiment qui sont en fait neutralisés, et ce qui rend évidemment beaucoup plus difficile de trouver des majorités alternatives. L'autre point, je l'évoquais tout à l'heure, c'est en fait la crise budgétaire et le fait que la plus grosse partie de notre déficit, de notre dette, viennent de dépenses sociales qu'il est extrêmement difficile politiquement de réduire, parce que aucun parti, aucun homme politique ne veut vraiment assumer des réductions qui seraient extrêmement douloureuses. Or, c'est ça qui rend toute la difficulté de faire passer le budget. C'est pour ça que et la dissolution d'Emmanuel Macron et aujourd'hui la décision de François Bayrou se font en fait en perspective d'un budget qu'il pense avoir du mal à faire adopter. Et ça, c'est une très très grande difficulté qui n'est pas si éloignée des difficultés budgétaires de la France en 1789 et où c'est pas une question d'institution qui fait que Louis XVI n'arrivait pas à résorber ce problème de dette. C'était en fait un problème vraiment financier et qui demandait des décisions peut-être trop courageuses pour ceux qui étaient au pouvoir.
Oui, sur cette question du budget, il est en effet intéressant de constater que quand donc François Bayrou a proposé cet effort national et ses économies et les conditions de ces économies, à savoir supprimer 2 jours fériés, etc., eh bien, ces mesures sont extrêmement impopulaires et que parmi les blocages de la rentrée, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, qui est le blocage social. Et parfois, il y a choc ou rencontre entre des interrogations de type constitutionnel et des interrogations de type socio-économique. Et donc, se prépare ce mouvement qui s'appelle par avance « Bloquons tout », qui est prévu pour le 10 septembre. Bastien, François, déjà, que pensez-vous, je dirais, du nom de ce mouvement et donc du projet qu'il propose, puisque nous sommes en train, depuis tout à l'heure, de commenter une série de blocages. Est-ce qu'on répond à des blocages par un projet de pur blocage ou dont le blocage est la finalité ?
Moi, cette expression, je la trouve extrêmement intéressante parce que je trouve qu'elle dit bien la situation que nous vivons, c'est-à-dire que la situation que vivent les citoyens. Les citoyens votent aux élections législatives, le président n'en tient pas compte. Les citoyens signent dans un délai très serré, au début de l'été, une pétition à plus de 2 millions contre une proposition de loi qui a été adoptée par le Parlement. Il ne se passe rien, en fait. Et en tout cas, il ne se passera rien, parce qu'il n'est pas prévu, justement, dans les textes, qu'il se passe quelque chose à l'issue d'une pétition de cette nature-là. Bon. On peut revenir un petit peu en amont, la réforme des retraites. 80% des Français étaient contre cette réforme. Il y a eu des millions de personnes qui se sont mobilisées, etc. Et on est passé, on connaît tous l'histoire, au 49-3. Bon. Donc, je pense que nous avons tous, citoyens, un peu un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, comment nous pouvons peser sur la situation politique ? On manifeste, ça marche pas. On vote, ça marche pas. On fait une pétition, ça marche pas. On ferait un référendum, je suis pas sûr que ça marcherait plus, parce que ça serait un référendum décidé par le président de la République sur une question qu'il aurait choisie.
Ça dépend du sujet, parce que le référendum fait quand même adopter directement un projet de loi.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait un référendum d'initiative citoyenne, ça serait, à mon avis, très différent. Et finalement, quand tous les outils à notre disposition, la liberté de manifester, de voter, de pétitionner, s'avère sans aucune efficacité, la seule arme qui nous reste, c'est de dire, on croise les bras et on arrête tout. Voilà, on arrête, c'est fini. Bloquer, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est arrêter, on ne joue plus le jeu. Bon. Et ça me semble être, je disais intéressant, mais aussi extrêmement inquiétant, évidemment. C'est-à-dire que si ça marche, si ce mouvement marche, on verra. S'il prend de l'ampleur, ça veut dire quand même que nous nous sentons tous très impuissants par rapport à la situation politique et qu'on peut s'inquiéter sur la prochaine étape. Parce que la prochaine étape, quand on est impuissant, c'est quoi ? C'est plutôt de la violence. C'est plutôt, non pas je bloque, mais je tape. Voilà. Si le politique ne répond plus, si le pouvoir ne répond pas aux sollicitations, si on se sent impuissant, il y a un moment donné, on rentre dans des choses qui sont difficiles à contrôler.
Merci beaucoup à vous trois. Merci Raphaël Dohan, merci Eugénie Mériot et merci Bastien François. L'émission a été préparée par Aline Biette et réalisée par Souad Boukorsa. Merci beaucoup à elle aussi. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site et sur l'application de Radio France et on se retrouve la semaine prochaine.